hommage à Ultima.
Tu as été de nuisance depuis beaucoup trop longtemps, Avatar. Tes deux mondes seront écrasés. Britannia d'abord, ensuite la Terre. Je te ferai parader devant les peuples conquis comme étant l'idole d'un idéal pathétique. Je te bannis dans le monde de Pagan. Ici, personne ne connaît l'Avatar. Je te briserai, Avatar. Toi aussi devras te prosterner devant mon autorité.
Ouais, pas rap, là. Il n'y en est pas question. Abat l'autorité et vive l'anarchie!
Tu seras observé jour et nuit. Je te poserai des pièges mortels partout où tu iras.
Ouh, hey, j'ai peur. Puis c'est quoi que tu penses faire pour me faire prosterner devant toi?
Je vais t'envoyer mes hordes de sbires assoiffées de sang.
Il y a rien là. Ça fait 7 épisodes que j'en fais du sushi avec tes sbires.
Je vais faire de Britannia un enfer de corruption et de cendres, et j'anéantirai l'ordre british.
On s'en sac dessus. De toute façon, le prochain volet de la série sera même pas bon. Richard Garriott va quitter Origin. Et Origin va être fermé par Electronic Arts juste après.
Ah, pourquoi? Non!
Bon, ben, coudonc. Je vais aller me faire une petite camomille, moi, là.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scott, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de CKIA. Bon retour à la maison, tout juste après 17h, en ce lundi 30 mars 2009. Vincent Langlois au micro, je vous souhaite la bienvenue à votre magazine hebdomadaire Puissance Maximale, magazine sur le monde ludique. Et je souhaite également la bienvenue à mes collaborateurs habituels, François Gécouillard.
Salut Vincent.
Salut François. Et également Alexandre Bélanger qui est avec nous.
Salut Vincent.
Et bonne fin d'après-midi, messieurs. Alors, une bonne émission aujourd'hui, une émission bien remplie. On va faire un petit tour de table juste pour voir ce dont il sera question. Alexandre, de ton côté.
Aujourd'hui, je continue la chronique sur Koji Kondo avec de plus amples informations,
plus d'informations
dans quelques minutes.
Excellent. Nous aurons également la visite de Mathieu Place pour la chronique rétro. De ton côté, François?
Évidemment, l'actualité ludique. Il s'est passé quelques trucs intéressants cette semaine dans le domaine du jeu.
Et de mon côté, je ferai un petit commentaire sur Resident Evil 5. Donc, ça fait quand même 2 semaines que je veux vous faire un commentaire. Ça la donne jamais. Ah. On va pouvoir en parler et je donnerai également quelques impressions sur le jeu. Également sur Legends of WrestleMania, dont on avait parlé en actualité il y a quelques semaines. Bon, si vous êtes amateur de lutte, vous pourrez toujours voir un peu ce que j'en pense. Et on va commencer tout de suite avec la chronique d'Alexandre Bélanger.
Allons-y!
Alors, comme à l'habitude, j'attends d'entendre les premières notes de la musique de fond. Mais aujourd'hui, oui, comme on est en continuité avec la chronique de la semaine passée, ben, je vais faire un petit résumé sur Koji Kondo. Qui est Koji Kondo? Koji Kondo, un compositeur de Nintendo qui a travaillé...
Japonais.
Oui, ben, oui, le nom le dit. Oui, Nintendo, la plupart des employés sont japonais. Et Koji Kondo, bien sûr, est un japonais qui a été employé chez Nintendo dès presque les départs de la compagnie dans les jeux vidéo. Et Koji Kondo est reconnu pour avoir composé pour deux jeux, deux séries de franchises principalement. Il s'agit, comme on a parlé de la semaine passée, de Super Mario Bros. Brothers.
Et oui.
Est très, très connu, mais aussi... Et cette semaine, on va parler de ça en compagnie de François et Vincent. Une chronique sur Zelda.
Et là, on parle que Koji Kondo, c'était un bleu. Là. C'était vraiment un débutant quand il a commencé avec la musique de Mario.
Mais quand même un compositeur diplômé, quelqu'un qui a fait ses armes en composition, du contrepoint probablement à toutes le fatras de tâches très difficiles pour devenir comme tel compositeur. Mais bon, il a été engagé par une entreprise qu'on connaît qui est Nintendo, une entreprise de jeux vidéo.
Et sans trop le savoir, il a peut-être composé la musique de deux jeux vraiment extraordinaires. Enfin, en le faisant au départ, là, c'est deux jeux qui sont dans la légende des jeux. Quand on entend la musique de Zelda et la musique de Mario, ceux qui sont de la génération des 25 à 45 ans, ils savent de quoi on parle.
Effectivement. Et lui-même ne savait pas, mais la musique, au-delà des jeux même, les jeux ont marqué l'industrie, mais la musique aussi est restée dans les mémoires. Et si c'est pas difficile de le prouver, on a seulement qu'à chercher sur Google Zelda musique, par exemple, et on va trouver des milliers de fans qui rendent hommage à cette musique. Et la semaine passée, je mentionnais que Koji Kondo, dans sa méthode de travail pour arriver à vraiment faire une musique qui est fidèle au jeu, Koji Kondo se fiait beaucoup au swing, au rythme du jeu. Il portait vraiment une attention spéciale dans le mariage entre la musique et l'image, et l'animation, je devrais dire. Et dans le cas de Zelda, ben comme dans le cas de Mario, on a parlé du swing, du salsa, que ça bougeait, ça sautait, Christian mentionnait le son du saut.
Oui.
Dans Zelda, on a la même chose, la même affaire pour des considérations, cette fois, épiques.
Ah!
Parce que c'est une musique qui donne réellement le goût d'explorer.
L'aventure.
Oui, d'explorer, d'aventure, de résoudre des casse-têtes pour se rendre plus loin, de trouver tel morceau pour pouvoir débarrer une porte ou traverser un pont, gagner une île au large. Cette musique-là donne justement cette atmosphère-là épique, mais... atmosphère qui donne le goût de chercher et de continuer.
Mais dis-moi, Alexandre, si la musique de Mario s'est inspirée de l'Amérique latine, est-ce que tu as vu une inspiration d'un pays ou d'un endroit particulier pour la musique de Zelda?
Ben, j'y vais de façon improvisée. Tout de suite, je dirais que c'est d'une inspiration romantique de la musique classique, des grands compositeurs qui faisaient beaucoup de marches militaires ou de grandes symphonies à tendance militaire, là, avec beaucoup d'emphase sur des mouvements.
C'est très pompeux, quoi.
Hein?
C'est pompeux.
C'est très pompeux, merci. Oui, c'est très pompeux, mais en même temps, ça vient comme te chercher dans détails, les petits violons, les petits côtés. Donc, autant romantique, autant pompeux que peut-être pas romantique, mais gentil ou... ambiance, là, quelque chose de proche du nouvel âge, là, du new age, la musique, en même temps qu'on a le côté pompeux. Parce que là, je dis ça en me fiant sur plusieurs musiques là, du jeu. La musique de fontaine, quand on se régénère.
Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Avec Zelda, là, c'est vraiment tout ce qu'on peut entendre autour de la simple musique qui était la première là, du premier Zelda, quand on mettait la cassette dans le Nintendo puis qu'on entendait cette musique-là qui est le thème, en fin de compte, de Zelda. Tout ce qu'on peut voir autour, peu importe les Zelda auxquels on joue, les moments un petit peu plus relax, où on fait plutôt une quête à la recherche de, les moments où on affronte des ennemis, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est beau à entendre. Puis on est toujours content à un moment donné de réentendre le thème dans le milieu d'une quête ou quelque chose comme ça quand ça revient. C'est toujours vraiment une ambiance vraiment qui rappelle des bons souvenirs.
Je pense qu'ils font par exprès de jeu en jeu de toujours ramener au moins la mesure qu'on connaît tous et qu'on va probablement entendre dans la pièce là jointe à ma chronique. Et Et oui, c'est toujours ce petit thème-là. Et on sait que Koji Kondo a participé à plusieurs jeux Zelda. Il y a une dizaine de jeux Zelda qui ont sorti depuis l'époque, dont Ocarina of Time, qui est un des chefs-d'œuvre, dont le premier aussi qui a marqué.
Est-ce qu'il a participé à tous les Zelda ou non? Pas tous?
Pas tous, parce que là, il y en a beaucoup. Il y a ceux qui ont été produits par Capcom sur le Game Boy. Bon, ça, c'est vraiment une exception. Là, on est vraiment dans la spécificité des Zelda moins connus. C'était Oracle of Age, Oracle of Season. Là, c'est pas lui. Peut-être les derniers. Oui, les derniers dessus sur celui du DS, Phantom Hourglass. Oui.
Et même les Zelda les plus mauvais, là, que je me souviens même plus leur nom.
Ceux sur la compagnie de Philips. Okay, ça serait les plus mauvais Zelda. Parce que Philips, au début des années 90, ont eu un contrat avec Nintendo pour produire. Là, ils ont eu les droits de produire des jeux Zelda sur CD. Mais ces jeux-là ne sont pas composés. La musique n'est pas composée par Koji Kondo. Mais la plupart des jeux, là, sans me tromper, ben lui, il s'est consacré à Super Mario et à Zelda. Mais avec toutes les variantes qu'on trouve pour ces deux jeux-là, ben on voit vraiment une pléiade, quand même une diversité, malgré des thèmes qui reviennent. Ben il y a vraiment une diversité de pièces, une diversité de thèmes qui arrivent. Par exemple, on entend là le château d'Hyrule. En version orchestrale aujourd'hui.
Ce qui est toujours excellent. En fin de compte, on peut en avoir plusieurs versions, même sur YouTube. Hein, quand on va voir, c'est assez impressionnant
les
orchestres le jouent.
Mais cette pièce-là, elle aurait pu se retrouver dans le premier, mais elle n'était que dans le troisième pour le château d'Hyrule. C'était vraiment la pièce du château. Une excellente pièce, bien sûr. Encore.
Ce que je trouve intéressant aussi avec la musique de Zelda, c'est qu'on parle beaucoup de la musique du jeu en tant que telle, mais elle fait partie intégrante du jeu. Quand on le joue dans Ocarina of Time, on devait jouer de l'ocarina sur certains tableaux pour avancer. Et également, dans Wind Waker, on avait une petite baguette et on faisait comme le chef d'orchestre pour faire changer le vent de côté. Et donc, la musique est partie intégrante également du jeu. C'est quand même, bien.
Il y a toujours eu une flûte dans les Zelda.
Oui, aussi.
Voyager. Ouais. Mais avec Ocarina of Time, là, on a vraiment atteint un niveau parce que là, tu jouais vraiment de l'ocarina pour passer des tableaux et des casse-têtes. C'est pas mal ce qui termine ce que j'ai à dire sur la musique de Zelda. Simplement un élan de nostalgie que je vous offre et aussi une découverte possible pour vous. Allez sur Google, allez sur Internet et cherchez la musique de Zelda. Vous allez en trouver pour tous les goûts. Mais surtout, si vous avez connu les jeux, là, vous allez en trouver en masse. Et assez pour avoir beaucoup de plaisir à écouter tout
et
ça.
Et de bons souvenirs.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Alexandre.
Oui, mais je voudrais parler de la pièce qui va jouer. La pièce qui va jouer, c'est la pièce d'ouverture de la cassette Zelda 1, de la cartouche.
Est-ce qu'on parle de celle en or, là?
Oui, celle en or.
D'ailleurs, ça doit être le seul jeu vidéo sur Nintendo qui est sorti en or.
Elle avait un statut spécial, hein, cette cartouche-là.
Je savais dès le départ que ça allait être...
C'était un jeu triple A, comme on dit, dans l'industrie. Sûrement. Les meilleurs jeux qui sont censés là, d'attirer l'attention de tous parce qu'ils sont extraordinaires. C'est vraiment exceptionnel.
C'est pas le premier jeu qui est sorti avec une pile que tu peux sauvegarder dedans.
La fameuse pile là, qui ne fonctionne plus après plusieurs années, bien sûr. Mais oui, justement, il y avait une pile dans celle-là. Mais beaucoup d'amateurs de Zelda ont préféré le deuxième par rapport au premier parce qu'il y avait le petit côté jeu de rôle là, dans lequel on montait des niveaux et tout ça.
J'en entends parler beaucoup. Il y a un gros essai. Moi, j'aime beaucoup le deuxième personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de déceptions. Les critiques ont été très surprises aussi.
Moi, j'ai toujours été un fan du premier au départ. Puis quand le deuxième a amené ça, on vient de couper carrément avec ce qui se fait dans Zelda. Mais beaucoup aimaient justement l'interaction du fait que quand on se promenait, on se faisait attaquer sur le terrain. Oup, on tombait dans un autre tableau et on montait des niveaux. Beaucoup de gens ont bien aimé l'intégration du type jeu de rôle.
C'est un sujet de controverse.
On pourra revenir avec un débat là-dessus dans quelques émissions.
Mais bon, la pièce qui va jouer, c'est vraiment la pièce d'ouverture. Là. C'est pas la pièce du jeu, mais vous allez reconnaître tous les thèmes dans cette grande ouverture qui donne vraiment le goût de connaître l'histoire, parce que là, on se défile l'histoire pendant qu'on entend ça, normalement, avec le jeu. Donc, voici l'ouverture, le titre de Zelda 1.
À puissance maximale.
Sur les ondes de Sekaïa.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Oh oh!
Et de retour sur les ondes de CKIA, on va passer à l'actualité avec François G. Couillard.
On ne gênera pas, aucun nom.
Ben, ne nous gênons pas, allons-y.
Il s'en est passé des choses cette semaine dans le domaine du jeu, n'est-ce pas? Commençons tout d'abord par la nouvelle qui titre par 8 heures par jour devant l'écran.
Eh oui, j'ai entendu parler de ça.
Donc, c'est une étude qui a porté sur le temps que passent les adultes devant un écran. Ça peut être un écran de télé, un écran d'ordinateur, un écran de Nintendo DS, n'est-ce pas, Alexandre?
D'un ordinateur surtout, hein?
Et il semblerait que les adultes aux États-Unis passent en moyenne 8 heures par jour devant un écran.
8 heures.
Ben moi, je compte, personnellement, c'est au moins ça. J'ai pas le choix.
Ouais, quand ton emploi est comme ça, lié au...
Moi, j'ai pensé à ça, puis je dois passer à peu près au moins 12 heures par jour en moyenne.
c'est pas possible, mais on n'a pas le choix, quelque part, là, en même temps. Mais je te laisse continuer.
Et là, je parle même pas d'un écran à télé, là. Moi, j'écoute jamais à télé. C'est vraiment juste un écran d'ordinateur. C'est la génération aussi, là. J'ai l'impression que ça va aller de plus en plus vers ça. Là, les gens abandonnent la télé peu à peu. C'est d'ailleurs ce que l'étude révèle. Donc, évidemment, les jeunes passent beaucoup plus de temps devant une console de jeu, par exemple, qu'un adulte. Par exemple, le temps passé devant un écran d'ordinateur pour regarder les vidéos est d'environ 2 minutes par jour, en moyenne. Et les jeunes passent près d'une demi-heure par jour avec des consoles de jeu. Ça commence à être pas mal.
En moyenne.
Et en moyenne, les Américains passent environ 2h30 par jour devant un ordinateur. Et l'étude a été menée par la Ball State University pour le Council of Research Excellence.
Et tout ça pour un total de 8 heures par jour. C'est quand même pas mal.
Donc, quand même intéressant. Sinon, quoi d'autre? L'addiction aux jeux vidéo est une fable.
J'ai bien aimé
ça. Ça n'existe pas.
Ouais. Ouais. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé quand je suis tombé là-dessus parce que c'était un truc qui me chicotait depuis un bout de temps. Je me disais, ça pourrait être un bon sujet d'aborder l'addiction dans les jeux vidéo. On parle souvent de World of Warcraft, et c'est un jeu très addictif. Et il y a un autre son de cloche. Alors, je commence. Yann Leroux, c'est un psychologue qui est passionné de jeux vidéo. Et évidemment, son passe-temps l'a prédisposé à s'intéresser au phénomène de l'addiction dans les jeux vidéo. Et son jugement est sans équivoque, les jeux vidéo ne rendent pas malades. C'est plutôt le fonctionnement de notre société qu'il faut interroger, selon M. Leroux. Ça, je le cite intégralement. C'est quand même pas rien.
Est-ce que c'est pas un peu biaisé? Je sais pas si l'article en fait...
Mais c'est qu'on peut pas rendre un objet comme étant un psychotrope. C'est ça le gros point, c'est qu'un objet ne peut pas être un psychotrope comme tel. Il modifie pas le fonctionnement du cerveau comme tel.
C'est ça, apparemment.
Gros résumé, là.
Je vais continuer ce qu'il dit, M. Leroux, mais effectivement, probablement que c'est un peu biaisé. D'un autre côté, il y a beaucoup de psychologues qui vont statuer sur ce sujet-là sans même avoir essayé les jeux vidéo. Bon.
Oui, non, c'est certain que c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît ça, sauf que je pense que dans n'importe quelle étude, quand tu prends des cas types d'études, tu ne t'étudies pas toi-même ou en fin de compte, peut-être que c'est pas étudié non plus, on verra. Là.
C'est pas nécessairement une étude, je pense que ça révèle plus son opinion personnelle.
D'accord.
Et donc, je vais le citer. Celui qui avait ouvert l'une des premières cybercliniques pour personnes dépendantes aux jeux vidéo en Hollande a reconnu l'année dernière que les problèmes ne tenaient pas du jeu, mais exprimaient des difficultés relationnelles. Le psychologue fait une nette distinction entre les joueurs parieurs et les addicts du jeu vidéo. Il identifie des différences fondamentales entre les jeux de paris, les jeux de machine à boules, tout ça, et les jeux vidéo. Et selon lui, toujours selon Yann Leroux, le psychologue, ce qui explique que le jeu vidéo est devenu le bouc émissaire de tous les maux du 21e siècle serait explicable par la diabolisation des jeunes dans notre société. Et il faut reconnaître que nos sociétés vieillissantes maltraitent les plus jeunes, les considérant comme des hordes de barbares incultes. Toi-même, Vincent, qui est un professeur, là, je me disais, ça va sûrement l'intéresser. Là. C'est quoi son opinion là-dessus à Vincent?
Ben, c'est,
en plus que c'est risqué parce que lui-même est...
Non, mais ça dépend toujours de la relation que tu as avec les jeunes. Moi, je pense avoir développé une relation quand même bien, une relation de respect.
Et on salue tout le collège certain. De Lévis.
Ben, saluons les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et il y a peut-être des des possibilités, justement, que les jeunes se sentent peut-être réprimés d'une façon par les adultes, mais ça dépend toujours de quelle façon tu abordes le sujet avec les jeunes en particulier.
Alors, on remarque que Vincent patine ici.
Non, je ne patine pas du tout. Mais c'est certain que ils ont peut-être pas toute la place qu'ils méritent, et c'est la société qui doit leur donner cette place-là. Mais faut leur donner la chance aussi d'évoluer. On a tous été adolescents, on a tous été jeunes, on a tous fait des bons pas, des mauvais pas. Ça prend un guide aussi dans la vie pour pouvoir savoir où tu t'en vas.
Mais selon toi, est-ce que tu as l'impression que les adultes peut-être méprisent les jeunes ou les diabolisent, peut-être?
Ben, peut-être pas tant que ça, mais c'est certain quand on revient aux jeux vidéo, c'est toujours ça qui revient. Hein? On entend parler de jeunes de 14, 15, 16 ans qui font feu dans une école ou qui maltraitent. En tout cas, on voit souvent ça dans les nouvelles. Pis c'est toujours le jeu vidéo qui revient en ligne de compte. Ah, il jouait à tel jeu. Ah, il faisait ses heures là-dessus, tout ça. Bon, est-ce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était le même cas? Moi, je m'excuse, mais
c'était
quand je jouais...
Métal,
ben, c'était la musique métal. C'est ça, on trouve toujours nos démons à chaque, me semble, période.
Ah oui.
Il y a toujours des démons quelque part qui font ça. Bon, dans le temps, justement, c'était Metallica, c'était Kiss, là.
Il parlait de Mortal Kombat.
Est-ce que, quand on jouait à Mario, là, puis qu'on écrasait le champignon, là, on riait ou on faisait de la violence? Encore là, c'est la même affaire, là. Il y avait une certaine violence qui était... peut-être pas aussi démesuré qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeux, c'est très... je m'excuse pour le mauvais français, là, mais guts and gore, là, en fin de compte, on voit le sang, on voit tous les tripes. Et c'est certain que c'est facile d'aller vers là quand on vient à qualifier un acte de barbare qui a été commis par un jeune, tout simplement. Mais bon...
Je vais répondre en citant toujours le psychologue Yann Leroux en disant « Les jeux sont violents car nos sociétés sont pleines d'armes, de fureur et de guerre. » Donc, ce serait « Si les jeux sont violents, c'est parce que la société est violente. »
Bien, c'est certain que s'il n'y avait pas de violence dans la société, les jeux sont un peu un reflet de la société ou un reflet, parfois imaginatif, mais c'est un reflet de ce qu'il y a dans la société, nos peurs, nos craintes, toutes ces choses-là. Puis, c'est certain que s'il n'y avait pas eu d'armes d'inventer, peut-être il faudrait l'inventer pour les jeux. Et en fin de compte, il y a tellement de jeux qui sont basés sur la guerre, les choses comme ça. C'est vraiment une fenêtre, c'est difficile à dire une fenêtre, c'est un peu laid comme mot pour ça, mais une image de ce qu'est la société aujourd'hui, c'est certain.
Oui, Alexandre, tu voulais dire quelque chose?
Oui, ben je suis bien content que quelqu'un statue quelque chose comme ça, mais c'est... C'est toujours dérangeant quand quelqu'un arrive et dit « ben ce n'est pas à cause de ci, c'est à cause de la société, il faut remettre en question certaines choses. » On parle un peu de ça pour la crise économique et il faudrait remettre en question l'idéologie peut-être derrière la crise et non pas tel coupable et tel ci et tel... Et c'est ça qui est toujours dérangeant pour beaucoup de monde. Moi, je suis très content de constater des lignes comme ça parce que lui dit « regardez, ce sont beaucoup, surtout des problèmes relationnels, des problèmes socio-affectifs qui affectent les individus et qui font en sorte qui passe trop de temps sur le jeu. »
Ouais, c'est peut-être ça, c'est justement, c'est ce qu'ils amènent là-dessus.
Et lui, il remet en question des principes, des relations qu'on a en général.
Je pense qu'il va chercher la base et le fond du problème.
Et ça dérange beaucoup de monde, je pense. Ça, c'est remettre en question ce point-là.
C'est un sujet qui nous passionne autour de la table. Alors, si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez lire un article, l'entrevue au complet avec M. Leroux. Vous allez juste aller sur puissancemaximale.com et tout est là. Sinon, une dernière news. Donc, les Journées ludiques de Québec, un événement annuel à chaque année dans notre ville. Donc, les créateurs peuvent soumettre leur création dès maintenant. Donc, c'est la troisième édition du concours des créations de jeux des Journées ludiques de Québec. Et vous pouvez envoyer vos créations de jeux de plateau. Et évidemment, ce concours peut vous aider à éditer votre jeu. Il y a eu plusieurs cas de jeux qui ont gagné des prix dans les années passées. Ils se sont fait souvent éditer. On parle de Québec 1608, Poison, etc. Ça va avoir lieu, les Journées ludiques de Québec à Québec, le 30 et 31 mai prochain. Surveillez ça. Vous pouvez aller sur journeesludiques.qc.ca pour en savoir plus.
Excellent. Merci beaucoup, François. On va passer en musique tout de suite.
On va écouter la pièce de notre ami Yannick Capmarty de Haute-Garonne. On salue les gens de Haute-Garonne. Et évidemment, c'est musax.info. C'est un passionné de musique de jeux vidéo, comme Alexandre Bélanger. On écoute ça, vous êtes à puissance maximale.
Resident Evil Code Veronica sort en 2000 sur la Dreamcast. Une fois de plus, le virus T de la société Umbrella a contaminé toute une population, transformant mort-vivant.
Votre Seigneur des Ténèbres, vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale.
Et de retour sur les ondes de CKIA, on va discuter maintenant de jeux vidéo. En fin de compte, je pense que la dernière demi-heure, c'est beaucoup axé sur le jeu vidéo aujourd'hui. De mon côté, ça fait quand même plusieurs semaines que j'attends de vous parler de ce jeu-là. Il est sorti le 13 mars dernier, le fameux Resident Evil 5, le cinquième.
Ça donne bien quand même, parce qu'il y a Yannick qui a sorti une batch de musique de ce jeu-là.
Eh oui, c'est ça que j'entendais en fin de compte, la musique de Resident Evil, juste avant la chronique Resident Evil. On vient également de parler de l'addiction au jeu et de la violence liée à ça. Ben, Resident Evil, c'est un jeu assez violent, vraiment, qui est réputé, en fin de compte, il y a 13 ans, est sorti le fameux Resident Evil, le premier, qui était, le père ou la mère, dépendant de comment vous le prenez, de ce qu'on appelle le survival horror, qui est plus vraiment ça maintenant. Depuis Resident Evil 4, là, qui est sorti il y a quelques années sur la GameCube, c'est beaucoup plus un jeu d'action et d'aventure. Oui, de survie et d'horreur, mais on n'est plus dans le cadre, disons, noir d'une grosse maison et on ne peut pas sortir de là, il y a plein de zombies autour de nous. C'est plus vraiment dans ce cadre-là. C'est beaucoup plus d'aventure, d'action. Dans le temps, quand on parlait de Resident Evil, c'était beaucoup axé, comme je le disais, on était enfermé à un endroit, il fallait par des différents puzzles trouver un moyen de s'en sortir ou de trouver des indices. C'est encore présent dans le Resident Evil, mais on parcourt beaucoup plus de chemin dans un pays ou dans différents endroits pour arriver à nos fins, tout simplement. C'est quand même un jeu qui est, moi en fin de compte, je l'attendais depuis longtemps, comme plusieurs fans. Resident Evil, quand ça sort, on l'attend, on veut vraiment l'avoir. Toujours édité et développé par Capcom, bon, classé M parce que c'est un jeu mature, violence, le langage pas toujours correct, le sang. Et c'est un jeu, bon, qui se joue seul à la base ou bien en multijoueur coopératif, donc deux joueurs. Il y a toujours deux joueurs en même temps. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance de jouer à Resident Evil Zero, qui était un jeu pour la GameCube, et on jouait seul finalement, mais on avait un partenaire ordinateur qui jouait avec nous, et parfois on pouvait aller changer de partenaire, aller faire le jeu notre partenaire et tout ça. Donc c'est un retour à ça, mais cette fois-ci, beaucoup plus intéressant de le jouer en ligne, en coopération avec des amis. Possibilité d'utiliser le micro pour parler en direct. Bon, ok, je me place là, toi tu te places où? là-bas, regarde, il y a du monde qui arrive, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc, c'est vraiment intéressant.
Est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que ça permet de gagner plus facilement le jeu?
Moi, en fin de compte, présentement, là, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai juste fait en coopération avec quelqu'un en ligne qui est chez lui. Et c'est vraiment, ça va super bien, là. Vraiment, ça se fait très bien. On peut ramasser de l'argent un peu au fur et à mesure. On peut également modifier nos armes, donc mettre un petit peu plus de niveau élevé. Et moi, en tout cas, ça se fait très, très bien. C'est certain que si c'était avec l'ordinateur, je ne suis pas sûr que ça serait évident, là. Vraiment, quand on est des joueurs d'expérience, ça va bien. Une fois qu'on tombe au combat, ben, okay. L'autre peut venir nous réanimer. Tout ça. Je pense que oui. Okay. J'ai bien hâte de l'essayer quand même seul, juste pour voir, mais quand même intéressant. C'est le retour de Chris Redfield. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était le héros du Resident Evil, le premier, et également de Code Veronica. Et bon... Après 13 ans après la destruction de Raccoon City, où plusieurs des Resident Evil se sont passés, bien là, on s'en va en Afrique. Chris Redfield, il a été mis au parfum, qu'il se passe de quoi, transaction d'armes, pas trop correct en Afrique. Il a également dans la tête l'idée que sa partenaire, Jill Valentine, n'est jamais morte, là. En fait, quand on pense, on le voit, là, le bord de la tombe, sur le bord de la tombe, et il pense qu'elle est décédée, mais lui, il pense qu'elle n'est pas morte, puis il veut la retrouver, puis il pense qu'elle est peut-être dans ce coin-là. Le fameux Kijuju, qui est le territoire africain où on va. Et on se rend là pour mettre un frein à transaction d'armes et peut-être retrouver son ami. Et c'est là qu'il rencontre la jolie Shiva Alomar, qui est une agente de la même gang finalement, mais qui est basée en Afrique. Et l'aventure commence automatiquement avec elle. Là. Bon, tu t'en viens avec moi, let's go, il faut qu'on aille voir telle affaire. Ça commence assez de façon violente. On arrive dans un endroit, on assiste à la mise à mort de quelqu'un et les gens se retournent comme nous, encore un peu comme des zombies. Là. Ils ont des faces un petit peu plus humaines que les zombies de Resident Evil les derniers, mais on voit qu'ils sont sous l'emprise de quelque chose là, qui n'est pas trop correct.
Ça commence directement dans l'action.
Ça commence directement dans l'action et c'est beaucoup plus présentement. Au départ, ça ressemblait beaucoup plus à... On essaye d'esquiver, de s'échapper de quelque chose. Là, on commence, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on commence à voir que oui, là, il y a quelque chose qu'il faut trouver. On trouve des indices. On doit se rendre à tel en tel endroit. Mais encore là, comme je vous dis, c'est beaucoup plus d'aventure et d'action que ce qui était le survival horror à l'époque. Pour ce qui est des effets visuels et de l'ambiance, ben, c'est un jeu qui est très bien réussi. Les couleurs, là, c'est impressionnant de voir ça aller. Sur une TV HD, là, c'est vraiment très, très beau. Les animations, là, sont excellentes. Vraiment très bien réussi. Déplacement facile, rotation de la caméra qui se fait bien aussi. Et bon, sur ça, moi, je l'ai essayé sur la PS3 en passant. C'est disponible également sur la Xbox 360. Et l'ambiance musicale, l'ambiance...
Est-ce que c'est africain?
Dramatique. Non, c'est vraiment la musique de Resident Evil. Bon, parfois, il y a des petits rythmes, oui, qui peuvent paraître un peu africains. Mais il y a vraiment l'ambiance dramatique de Resident Evil avec la musique. Là. Quand tu joues à des jeux de Resident Evil, là, tu t'y reconnais là, quand ça avance comme ça. Quand même intéressant au niveau de la musique également. Sauf qu'il y a toujours son petit côté ambiance relaxe parfois quand le gros de la tension est passé, on revient, ouf, on respire, tout va bien. Ça va, c'est quand même très bien comme jeu à ce niveau-là. Pour ce qui est de la jouabilité, caméra à l'épaule comme le Resident Evil 4, on est habitué à une troisième personne à l'époque avec les Resident Evil. Maintenant, c'est un petit peu plus à l'épaule, donc on voit à peu près du bassin jusqu'en haut.
Ah oui?
Oui, et c'est quand même vraiment bien fait pour ça, avec une arme. Quand on a notre arme en main, on pense que c'est difficile de bien mirer avec ça, mais il y a comme un laser, faisceau laser qui permet de voir où on tire à ce moment-là. C'est certain que si ça fait longtemps que vous avez joué à Resident Evil, bon, faut juste réapprendre les différents mouvements de la manette qui sont pas toujours les mêmes. Mais on a quand même une accessibilité à bien des choses sur la manette qu'on n'avait pas avant. Par exemple, si on veut changer d'arme rapidement, en pesant sur... Ben, pour le PlayStation, c'est le Y. C'est le triangle. J'imagine que ça doit être le Y pour la Xbox. Pour aller rapidement dans nos poches, bon, changer d'arme, prendre de la fameuse herbe qui nous fait revivre et des choses comme ça. Donc, c'est facile d'accès. Au fur et à mesure qu'on avance, au départ, on a quelques trucs prodigués qui nous disent bon, quoi faire dans telle situation, quoi faire pour retourner rapidement, pour échanger des choses avec d'autres. C'est bien pour ça aussi, parce qu'avec notre partenaire, on peut échanger, par exemple, des balles, des produits pour revivre, des choses comme ça. Malheureusement, on ne peut pas échanger d'armes. Ce qui aurait été quand même intéressant d'échanger quelques armes parfois, on ne peut pas le faire durant le jeu.
Est-ce qu'il y a une tronçonneuse?
Présentement, je n'en ai pas vu, mais il y a des gens à la tronçonneuse qui nous attaquent. Ces gens-là sont quand même assez difficiles à battre.
C'est toujours plus le fun d'avoir sa propre tronçonneuse que de se faire attaquer par des gens comme
ça. Il y a quelques jeux qui l'offrent, mais pas celui-là présentement. Mais c'est très stressant. C'est le bout le plus stressant, disons, de Resident Evil, parce que présentement, quelques bouts dans la noirceur que j'ai vus, mais beaucoup, beaucoup à jour, en pleine journée, ce qui fait que l'ambiance est... oui, quelquefois stressant quand on, stressante quand on rencontre justement ce maniaque à la tronçonneuse-là, mais à part ça, ça revient facile à changer de place.
Je veux dire, j'ai l'impression d'entendre parler de Tomb Raider ou de quoi de même. C'est vraiment, ça semble être proche de ça.
Oui, sauf que Tomb Raider, c'est beaucoup plus aussi un jeu, comment je dirais, qualité athlétique de Lara Croft, là. Faut que tu sautes d'un bord puis de l'autre, ouais. Tu montes sur les parois puis tout ça. Dans cela, on peut monter quelques échelles, sauter en bas de la falaise, mais il n'y a pas vraiment rien à la Tomb Raider ou à la Prince of Persia, par exemple. Mm-hmm. C'est beaucoup
comme
plus
ça,
vraiment.
Comme on va dire sur des plateformes, des trucs.
Ben,
comme
ça peut arriver qu'on saute d'une plateforme à l'autre, mais je veux dire, ça sera pas le but du jeu en général, tandis que Tomb Raider avec Lara Croft, c'est souvent de faire des acrobaties pour en arriver à nos fins. C'est quand même un jeu super intéressant. Comme je vous disais, le mode coopératif, vraiment bon. C'est le côté là, en ligne, là, c'est ce qui rend le jeu vraiment le fun. Quand on a des amis qui ont le même jeu, bon, c'est certain que si on joue avec des gens qu'on connaît pas, ça peut être plus ou moins intéressant. Mais avec des amis, ça va très bien. Moi, je donne un 9 sur 10 ce jeu-là. C'est très, très réussi. Et en terminant, j'aimerais juste vous parler également d'un jeu dont on avait parlé à peu près au même moment. Le fameux Legend of WrestleMania. On avait parlé de ça en chronique d'actualité, ça s'en venait bientôt. Et j'ai mis la main sur une copie.
On parle d'un jeu de lutte.
Oui, en étant un vieux fan de lutte, maintenant, plus du tout. Là, si je regarde le WrestleMania, ça arrive une fois par année. C'est peut-être la seule chose que je regarde, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe présentement dans l'histoire de la lutte. Mais je peux vous dire que quand j'avais 12 ans, quand j'allais au chalet chez mes grands-parents, le dimanche matin, c'est ça qui jouait et c'est ça qui m'a vraiment intéressé au monde de la lutte à l'époque. Et bon, en apprenant que le fameux Legends of WrestleMania sortait bientôt, ça m'a quand même intrigué parce que c'est quand même des souvenirs.
Tu connais les personnages. Là,
c'est ça.
On arrive avec Hulk Hogan, Andre the Giant,
ouais.
The Rock, qui était plus dans la nouvelle génération, Steve Austin, qui était dans la génération des années 90.
Undertaker,
mais on revient avec Undertaker. Okay. On revient avec la Hart Foundation, Demolition, Jimmy Superfly Snuka, des vieux lutteurs, Nikolai Volkov, Ultimate Warrior est là aussi. Mais bon, à la base, ça paraît être un jeu ordinaire. Enfin, quand un jeu de lutte, moi, j'ai jamais vraiment trippé sur les jeux de lutte. Personnellement, là, ça m'a jamais attiré parce que bon, deux gars dans un ring, oui, il y en a beaucoup. Puis j'ai toujours trouvé les contrôles plutôt difficile à utiliser. Là. Bon, tu prends une prise, mais il faut que tu attendes que ton adversaire soit vraiment dans les vapes parce que tu y en as donné un bon juste avant. Donc, j'ai toujours trouvé ça un petit peu plus difficile, sauf que celui-là, ce qui est quand même intéressant, dans les différents jeux, on a toujours un mode carrière. Celui-là, vraiment, c'est on a un mode exhibition dans lequel on se bat dans des combats avec n'importe quoi, là, la cage, des choses comme ça. Mais on a le fameux mode WrestleMania parce que c'est Legends of WrestleMania. Mm-hmm. Et ce mode-là nous permet de revivre des moments de WrestleMania. On revoit des petits moments en vidéo, vraiment. Là, on voit le vidéo qui joue dans le jeu. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé entre Hulk Hogan et Andre the Giant à WrestleMania 3? Tu vois tout l'avant et tu te ramasses, c'est toi qui fais le match. Et on te demande de faire à peu près la même chose qui s'est passé. Donc, si tu réussis...
Tu refais les aventures.
Tu refais, en fin de compte, le match en point par point. Disons qu'il y a peut-être 5 à 8 points par match. Et tu dois les faire. C'est certain que tu peux gagner le match sans faire ça, mais ça te donne des points de plus à débloquer si jamais tu réussis à faire le même mouvement à tel moment et à gagner de la même façon.
OK, mettons, Hulk Hogan, il avait donné une taloche à partir de tel moment avec sa jambe droite.
Et c'est ça, en plein ça. Lui, ce qu'il faisait toujours, c'était toujours son mouvement pour terminer un match. Sauf par exemple WrestleMania 3, s'il y en a qui écoutent ça puis qui écoutent puis qui ont déjà entendu parler, ce qui avait été surprenant à l'époque, c'était que Hulk Hogan avait soulevé le géant ferré.
Ah oui,
il avait fait un slam, il avait fait un body slam. Bon, il l'avait déjà fait dans des matchs autres que WrestleMania, mais ça n'en avait pas entendu parler.
Et c'était
qu'il l'avait slamé sur le ring. Et bon, si tu le fais, ben, tu gagnes un même nombre de points. Si tu termines de la même façon, même affaire pour Ultimate Warrior contre Hulk Hogan à WrestleMania 6 à Toronto. Si tu réussis à faire ce que Ultimate Warrior a fait battant...
Peux-tu vraiment refaire le combat avec le géant ferré?
Tu refais le combat avec le géant ferré.
Le géant ferré
combat. Géant ferré existe. Tu refais le combat. En fin de compte, il n'y a pas une grosse série de combats de WrestleMania que tu peux refaire, mais tu as le mode revivre où tu revis complètement ce qui s'est passé. Tu as le mode réécrire où tu as quelques combats de WrestleMania dans lesquels tu peux changer des affaires. En tout cas, on te demande de les changer. Et il y a le mode modifié dans lequel tu revis des combats de WrestleMania, mais dans différents arénas ou d'une autre façon. C'est un match normal, tu décides de le mettre dans une cage, des choses comme ça.
Okay.
Donc, c'est quand même un mode intéressant. Mais
c'est bon pour les nostalgiques.
C'est ça. En termes de nostalgie, de mon côté, j'ai la larme à l'œil, non pas vraiment.
Et les maniaques.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, ça fait toujours... C'est ça. C'est un petit clin d'œil au retour sur le passé. C'est pas un jeu extraordinaire, là. Moi, je donne un 7.5 sur 10 au total. Quand même bien fait, là. Les graphiques sont très beaux, mais il y a quelques détails qui ont été oubliés, comme la foule, qui est pas vraiment intéressant dans un jeu, mais tant qu'à mettre de la foule en pixel Mario Bros, mets-en pas du tout, des choses comme ça. Donc, c'est moi, un 7.5, 8 sur 10, là, c'est à peu près ça. C'est, comme je vous dis, je ne suis pas un grand fan de jeux de lutte, mais celui-là a réussi à me faire verser une larme dernièrement.
Je regarde la pochette, tu peux étrangler quelqu'un avec un serpent.
C'est fun, ça.
Je sais avec Jake the Snake Roberts. C'est le retour de Saldo à Jake the Snake Roberts.
Quand on retourne à l'école de la lutte.
On va falloir qu'on se fasse une petite soirée, messieurs. On va vous montrer vraiment ce que c'était l'histoire de la lutte. Alors, ça termine ma chronique jeux vidéo et on va y aller en musique, François.
On va écouter maintenant une pièce d'un groupe de Québécois, les Frères Goyette, avec la chanson Rallye. Vous êtes à puissance maximale.
Faites quoi, n'est pas bête? Ah ouais! Des grosses babettes! Pour qu'ils tiennent mieux du tape sur mes wipers, sont des pays solides, t'as pas besoin d'un wiper. Le liquide à la pièce marche pas trois quarts du temps. Fait que mes vitres sont sèches, j'vois rien, pis j'me ramasse tout le temps. Non, je peux pas faire de service au volant. J'ai même plus de vite, c'est juste un plastique transparent. Quand il veut le printemps, quand fin pas l'hiver, j'enlève mon plastique transparent, puis je me pose un moustique. Hey, au moins la char, les vents sont pompés. Je peux les reculer comme peu avant de m'assurer. Hey, au moins la char, les vents sont pompés. Je peux les reculer, les avancer dans les filets mains. La nuit pis qui fait ben ben loin, j'm'en vais dans les ruelles pis j'rentre dans toutes les poubelles. Le même matin jouer les scratchs à peinture. Non, j'me dis rien qu'une affaire. C'est plus que le temps passe, c'est plus que mon char peinture. Au moins dans le char, les vents sont pompés. Je peux les reculer comme je veux avant ma vie. Au moins dans le char, les vents sont pompés. Je peux les reculer, les avancer. We'll be right back.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Eh oui, nous sommes de retour en onde. Déjà,
la petite lumière est allumée.
La petite lumière est allumée, c'est le temps de parler maintenant. Et on va continuer avec la chronique de Mathieu Place.
Oh yeah.
Ah oui, c'est vrai. Salut Mathieu.
Salut. Ah, il n'y a pas mon petit thème. Ben, ça ne me dérange pas, je vais commencer tout de suite.
Tu as rendu ton thème.
Bon, OK.
On n'a pas de thème cette semaine, mais voyons.
Alors,
On va faire les choses en règle. On va faire les choses en règle. On est... Allons-y.
Ah, oh.
Ça fait mal.
Oh. Ouais. Place à la chronique de Mathieu Place.
Et voilà. Là, si je me trompe pas, c'est le jeu Les Schtroumpfs et il se trouve en Abandonwares pour PC sur le site de Lost Treasures. Allez télécharger ça et vous pourrez jouer aux Schtroumpfs.
Oui, ce jeu-là est souvent, en tout cas sur les listes des pires jeux de tous les temps. Je l'ai vu souvent, alors il faut s'en approcher avec attention.
Enfin,
alors, je vais tout de suite me lancer dans la chronique d'aujourd'hui et qui concerne le jeu Megaman 9. Alors, vous avez bien compris, Megaman 9. Alors, tous ceux qui sont des amateurs de rétro gaming doivent se creuser la caboche à savoir...
Mais que fais-tu avec Megaman 9?
Exactement.
C'est du rétro gaming.
Megaman 9. Alors, je vais vous faire un petit rappel. Sur le NES, il y a eu Megaman 1 et Megaman 2, jusqu'à Megaman 6. Alors, on a eu 6 Megaman de la série originale sur le NES. Ensuite de ça, il y a eu un Megaman 7 sur le Super Nintendo et ensuite un Megaman 8 sur la Saturn de Sega. Alors, si vous ne vous souvenez pas de la Saturn de Sega, eh bien, c'est normal. Ça a duré à peu près un an, même pas.
Il est sorti au PlayStation, je pense. Le 7 et le 8. Le 7, je l'ai vu sur PlayStation. Ouais, je ne veux pas induire en erreur personne. Je te laisse continuer.
Ça se peut très bien parce que Megaman, en fait, c'est un des grands personnages très populaires. Alors, il y a eu toute une pléthore de jeux. Il y a eu Megaman Soccer. Vous avez eu Megaman qui pouvait jouer dans une espèce de jeu style Street Fighter, où est-ce que vous aviez toutes sortes un jeu de combat avec toutes sortes de mouvements spéciaux à Megaman, etc.
Alors, j'aimerais que tu mentionnes les X sur Super NES, qui est quand même une superbe série, les ZX et les Z, il y a les zéros sur Game Boy, il y en a eu beaucoup de séries.
Je vais te dire, t'as l'air enthousiaste par rapport à ça, là, mais je fais pas partie de ceux qui ont aimé les X, etc. Je trouvais que là c'était vraiment trop, parce que Megaman, ce qui faisait que c'était fantastique, c'est que du 1 au 6, ils ont gardé exactement la même formule. C'est-à-dire que vous aviez un personnage qui devait combattre dans l'ordre ou dans le désordre 8-9 monstres, boss. Et puis là, ensuite de ça, une fois que vous les aviez toutes combattu et vaincu, eh bien, vous pouviez passer au stage final, au tableau final, où est-ce que vous deviez combattre Dr. Willy.
Et ça, c'était en 2D.
C'est ça, en 2D, de tout ce qu'il y a de plus...
Gros pixels.
C'est ça, gros pixels. Même Megaman, il peut pas être plus simple que ça. Vous avez un petit bonhomme avec un casque bleu. Il est tout en bleu et puis il y a même pas de main.
Il y a deux mouvements au total. Il y a le mouvement course et le mouvement coup de poing ou
exactement.
Saut.
Exactement. Il peut sauter et puis il peut lancer des espèces de projectiles qui se trouvent à être des espèces de pastilles. C'est tout simple. Ça peut pas être plus simple que ça. C'est vraiment le 8-bit à sa forme la plus simplifiée. Alors, c'est ça qui faisait que c'était fantastique. Parce qu'ils ont gardé exactement la même formule dans les 6 premiers. Et puis ensuite de ça, dans les X, etc. Bon, j'imagine que les graphiques étaient plus beaux, étaient plus intéressants, mais je trouvais qu'il manquait de la simplicité là, originale des titres originaux. Alors, c'est un débat à suivre.
Débat.
C'est ça, exactement. Alors, petite anecdote comme ça, vous avez Megaman, au départ, au Japon, il s'appelait Rockman. Alors, c'est pas rock dans le sens d'une roche, c'était vraiment dans le sens de rock'n'roll. Alors, c'était l'homme rock'n'roll.
Oh boy.
Et puis, bon, c'est ça, exactement. Alors, c'est une adaptation de la culture américaine à la japonaise.
Qui est de flabbergaster ma perception de Megaman.
Ouais, c'est ça. En tout cas, une petite guitare, quelque chose, tu sais, une espèce de petite accroche au rock'n'roll, ça nous aurait aidé à comprendre, mais en fait, c'était Rockman, tout simplement. Alors, ils ont décidé de le transposer à la culture américaine chez les Américains, et ils ont eu la bonne idée de l'appeler Megaman. Alors moi, je trouve ça fantastique comme nom parce que ça veut rien dire, ça reste dans la simplicité, et puis en plus, ça veut dire que c'est un Megaman, il est super, ouais, il est très
super
puissant.
Moi, c'est ça, il y a des super pouvoirs.
L'alternative qu'ils ont failli avoir pour le nom de Megaman à l'époque, c'était Rainbow Man.
Hey boy!
Alors, on est bien content qu'il l'ait laissé tomber, celle-là.
On salue la bande de Demologues qui va nous succéder.
Oui, c'est ça, exactement. Ben, en fait, tu sais, j'ai rien contre le nom, mais tu sais, ça laisse à une interprétation qui est autre que juste un bonhomme en cosmonaute qui envoie des pastilles de puissance. OK, on continue. Alors, vous avez justement le Megaman 9 qui est sorti très récemment. Et puis, en fait, c'est la même équipe qui a travaillé sur les Megaman d'origine. Et bon, tout est... l'équipe marketing qui s'est occupée du projet là, a vraiment voulu souligner le fait que c'était vraiment du rétro gaming. Alors, toute la pochette est un look ancien. Tout le matériel promotionnel du jeu a un look ancien, etc. Parce qu'ils avaient très peur que les gens soient un peu confus, tu sais, qu'ils voient le jeu avec tous les autres jeux, Grand Theft Auto, etc., aux alentours, et puis qu'ils se disent, ben voyons, ces gars-là... qu'est-ce qu'il fait là? Ils sont en retard de 20 ans, là, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Alors, ils ont vraiment voulu souligner le fait que c'était un ancien jeu. Et puis, bon, le public cible de ce genre de jeu-là, malheureusement, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moi, puis ben, il y a la gang ici, j'imagine, qui ont un intérêt à jouer à ça. Mais je suis pas sûr que ça va tellement pogner aux nouvelles générations. En tout cas, il faut développer un goût particulier pour les jeux simples, très directs.
On s'entend, c'est encore 2D, c'est encore un scroller,
c'est en plein ça.
Exactement. Même les mouvements de votre personnage, il y a très peu de mouvements, on en parlait tout à l'heure, là, mais ceux qui se souviennent de Mega Man 3, où est-ce que vous aviez le personnage pouvait faire des espèces de glissades, eh bien là, c'est vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas lancer de projectiles plus puissants que celui de départ, et puis c'est vraiment le minimum. Enfin, et puis dernière petite anecdote, eh bien, pour la première fois dans un Mega Man, vous avez une Mega Woman. Alors, vous pouvez combattre Splash Woman, et puis pourquoi il y a une Woman comme ennemi? Eh bien, il y a eu une pétition au sein de l'équipe de design du jeu, et puis ils ont décidé de faire une woman. Bon, ben, écoutez, c'est original. C'est sûr que moi, je voyais pas ça comme une attaque sexiste là, dans le cas de tous les man qu'il y a là. De toute façon, c'est des méchants. Alors, tu sais, c'est... Enfin, mais bon, qu'il y ait une splash woman, ben tant mieux.
Hein, souvent, écoute, c'est des robots, ajoute... ils n'ont pas de sexe.
Mais ils s'appellent tous man, pareil.
Ouais, c'est tous des man. Okay, okay. C'est ça. Il fallait une woman.
Moi, j'avais jamais réalisé ça avant aujourd'hui, Mathieu.
Oui, merci. Ben, c'est ça. Ben, ça se trouve être une splash woman et elle lance des tridents disponibles sur la Wii Virtual console.
Excellent. Alors, Mega Man 9, si vous voulez l'avoir, vous pouvez aller voir ça pour acheter. Et merci beaucoup, Mathieu Place. Ce qui met fin déjà à l'émission d'aujourd'hui. On va tout simplement vous dire que si vous êtes intéressé à jouer avec nous, bien, ce soir, ça se passe à l'Abraham Martin. Dès 18h, l'Abraham Martin, qui est un restaurant situé dans le complexe Méduse, ici, d'où nous diffusons.
Et j'aimerais ajouter que la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, on va être au Radioton de CKRL. On va occuper le sous-sol de CKRL et on va avoir une console de jeu. On va servir de la bière et vous pourrez venir nous rejoindre et en même temps appuyer une radio communautaire de votre région.
Excellent. Et on vous remercie tout le monde d'avoir participé à l'émission. Merci Alexandre Bélanger.
Hey, salut.
Merci Mathieu Place et François Gécouillard. Merci également pour le travail à la console et pour l'actualité.
Merci à toi Vincent.
Ça fait plaisir et sur ce, on vous souhaite tous et à toutes une bonne semaine.
Et restez à l'écoute pour Homologue.
I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope.